Les morts sont-ils vivants? Voilà une question étrange. Ce que nous appelons la mort est simplement une entrée dans une autre vie. En continuant notre étude des différents livres de la Bible, nous affrontons ces questions et voulons au cours de ces émissions vous présenter ce que nous trouvons comme enseignement à ce sujet. Ces programmes vous sont offerts par l'Association des étudiants de la Bible, éditeur de la revue mensuelle Aurore, et sont émis internationalement en diverses langues.
Merci Thomas. Au cours de notre étude de la semaine passée, nous avons vu brièvement le livre des psaumes et nous y avons trouvé maintes prophéties rassurantes relatives au grand plan de Dieu pour la restauration à la vie de toute l'humanité ici sur cette terre pendant le règne millénaire de Christ. À présent, nous considérons les écrits de Salomon. Thomas, je suis sûr que tu les as étudiés. Y as-tu trouvé quelque chose qui pourrait nous intéresser?
Oui, Pierre. Aux questions que j'ai posées au début de cette émission, la mort est-elle une réalité ou est-elle une entrée dans une autre vie? Il est répondu clairement par Salomon. J'ai trouvé que son livre des Ecclésiastes en dit long sur ce sujet.
Je suis d'accord avec toi, Thomas. Ce que Salomon dit est très important, car il nous est présenté dans la Bible comme un homme de grande sagesse. En effet, lorsqu'il devint roi d'Israël, Dieu le bénit par une dispensation spéciale de sagesse. En outre, Salomon est l'un des écrivains inspirés de la Bible. Le point de vue qu'il exprime peut donc être considéré comme une vérité absolue.
La grande sagesse de Salomon est admirablement exprimée dans le livre des Proverbes. L'un de ces proverbes dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »
Voilà un bon conseil, Thomas. Si nous désirons que le Seigneur nous dirige dans la compréhension de ses plans et desseins, il est important que nous acceptions sans contestation l'exposé simple de sa parole. Et ça s'applique aussi au sujet de la mort, comme Salomon le traite dans le livre des Ecclésiastes. Au cours de notre étude du livre de la Genèse, nous avons appris que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu dit à nos premiers parents, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Thomas, Salomon accepta-t-il cette vérité, prononcée par Dieu envers Adam?
Oui, certainement, Pierre. Cela semble être ainsi. Dans l'Ecclésiaste, au verset 19, il déclare « Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Et ils ont tous un même esprit, souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. » C'est plutôt une perspective décourageante, particulièrement cette expression que la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière.
Ce qui veut dire que dans la mort, l'homme n'est pas différent de la bête, que l'homme meurt tout comme la bête. La différence, Thomas, réside dans le fait que Dieu a promis une résurrection à l'homme, et naturellement c'est une merveilleuse différence. La raison pour laquelle Salomon s'exprime avec cette franchise sur ce sujet est révélé par le verset 21. Thomas, voudrais-tu la lire?
Mais oui. Le verset 21 dit « Qui sait si l'esprit souffle des fils de l'homme monte en haut et si l'esprit souffle de la bête descend en bas dans la terre ?»
Tu vois, Thomas, Salomon pose une question. Qui sait ou qui peut prouver si l'esprit des fils de l'homme monte en haut et si l'esprit de la bête descend en bas dans la terre ?
Mais Pierre, Salomon donne la réponse à sa question dans le texte que nous lisions il y a un instant. Il dit « Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. » Mais Pierre, que veut-il dire par « esprit de l'homme et esprit de la bête » ?
C'est le même mot qui dans le texte original hébreu est donné par « souffle ». Dans cet exposé, tous ils ont un même souffle. Autrement dit, le souffle de vie qui permet à toute créature, homme et bête, de vivre par la respiration.
Le même souffle, je pense, que celui dont il est parlé dans le livre de la Genèse, où il est dit que Dieu souffla dans les narines d'Adam un souffle de vie et il devint une âme vivante.
Oui, une âme vivante est un être vivant.
C'est assez clair. Mais, Pierre, je remarque dans le 12e chapitre de l'Ecclésiaste, que Salomon parle encore de la mort, ou mieux, ce qui arrive après la mort d'un homme. Au 9e verset, il dit que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ceci semble vouloir dire que l'Esprit de l'homme va vers le ciel à sa mort.
Là encore, Thomas, le texte hébreu se rapporte au souffle de vie. Le mot « retourne » dont se sert Salomon est la clé de l'énigme. Le corps retourne à la poussière parce qu'il a été formé de la poussière. Si le corps ou organisme de l'homme n'avait pas été créé de la poussière de la terre, on ne pourrait pas dire qu'il retourne à la poussière.
En effet, Pierre, l'esprit ou souffle de vie ne pourrait pas retourner à Dieu s'il ne venait pas de Dieu.
C'est très juste, Thomas. Et nous savons que l'esprit ou souffle de vie vient de Dieu, car le récit nous dit qu'il souffla dans les narines d'Adam le souffle de vie. Dieu est le donateur de toute vie. À plusieurs reprises, les Écritures nous révèlent que les animaux, tout comme l'homme, reçoivent l'esprit ou le souffle de vie de Dieu. Ainsi, à la mort, comme tout le corps retourne aux éléments de la terre desquels il est pris, la puissance de vie donnée par Dieu retourne à lui, laissant l'homme comme avant sa naissance.
C'est-à-dire non existant.
Dans le cas des animaux, oui. Mais pour l'homme, Dieu a promis une restauration, une résurrection. Ainsi, l'espérance de vie après la mort contenue dans la Bible est basée sur la promesse du Créateur de ressusciter tous les morts. Thomas, dans le 9e chapitre de l'Ecclésiaste, au verset 10, il nous est donné une autre définition de la mort. Voudrais-tu la lire?
Mais certainement. Voici ce qu'il dit. « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Ce texte affirme définitivement l'inconscience des morts. Il dit qu'il n'y a pas de connaissance dans le sépulcre où tu vas. Le mot « tu » ne doit pas s'appliquer uniquement au corps.
C'est sûr. Le pronom « tu » s'applique à l'être entier, à l'âme vivante ou être vivant, composé d'un corps animé du souffle de vie. C'est cet être qui meurt et reste inconscient jusqu'à la résurrection.
Mais Pierre, comment le souffle de vie peut-il aller dans le sépulcre? Nous savons tous, naturellement, que le corps est placé dans une tombe, mais nous n'avons pas l'habitude de penser que le souffle de vie va dans la tombe. Justement, nous avons appris que l'esprit ou souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné.
Le mot « sépulcre » dans ce texte est une traduction du mot hébreu « shéol ». Shéol ne se rapporte pas à l'endroit où le corps est inhumé. Il ne décrit pas un endroit du tout. La signification exacte est la condition de mort. Lorsque le corps retourne à la poussière, l'esprit ou souffle de vie retourne à son donateur. L'être qui était vivant ne vit plus, mais il est dans le shéol, l'état de mort.
Je me souviens justement, Pierre, que le mot hébreu shéol est traduit par enfer dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas?
Oui, c'est juste, Thomas. Et c'est le seul mot dans l'Ancien Testament qui est traduit ainsi et donne la description du seul enfer dont le Seigneur parlait il y a 4000 ans.
Il est sûrement intéressant de savoir que la Bible enseigne si clairement qu'il n'y a pas de connaissance dans l'enfer de la Bible. Eh bien, Pierre, si nous n'avons rien appris d'autre au cours de cette discussion, ceci en vaut déjà la peine. Mais dis-moi, Pierre, est-ce que le témoignage entier de la Bible est d'accord avec ce point de vue? Après tout, ceci n'est qu'un seul texte.
Thomas, le témoignage de la Bible au point de vue de la vérité est harmonieux. En continuant l'examen des différents livres de la Bible, nous aurons de plus en plus cette impression. Le mot « shéol » apparaît 65 fois dans l'Ancien Testament, et pendant qu'il est différemment traduit par « enfer »,« sépulcre » et « fosse », la signification est toujours la même. Elle décrit toujours la condition de mort.
Je crois que tu as raison, Pierre. Nous avons déjà noté plusieurs fois des textes où ce mot paraît. Le premier, je crois, à l'occasion où Jacob disait qu'il continuerait de se lamenter pour son fils Joseph jusqu'à ce qu'il le rejoigne dans le Shéol. À cette occasion, je me souviens, tu attirais notre attention sur le fait que le juste va dans l'enfer de la Bible, tout comme le méchant.
C'est exact, Thomas. Tu te souviens également que le prophète Job demandait à Dieu de le laisser aller dans le Shéol pour échapper à ses souffrances. Job savait, de même que Salomon, qu'il n'y a pas de connaissance ni de conscience dans l'enfer de la Bible. Qu'être dans l'enfer est pareil à être endormi. Il savait qu'en enfer, il serait délivré de ses souffrances.
Je crois que la semaine passée, au cours de notre étude des livres des psaumes, nous avons trouvé une prophétie de la mort et de la résurrection de Jésus qui disait que l'âme de Jésus était dans l'enfer.
Ce qui voulait dire simplement qu'en mourant, Jésus prenait la place du pécheur. C'est ce fait qui nous garantit une résurrection de la mort.
Pierre, cela veut-il dire que les morts reviendront comme êtres vivants sur cette terre? La Bible ne dit-elle pas que la terre sera un jour détruite par le feu?
En réponse à ta dernière question, je puis te dire que la Bible nous assure que la terre ne sera jamais détruite. Dans le livre de l'Ecclésiaste, que nous étudions en ce moment, Salomon déclare dans le premier chapitre, au verset 4, que la terre subsiste toujours. Ceci est en accord avec le plan de Dieu, tel qu'il est révélé par sa parole. Son plan, dont l'objet principal est la restauration à la vie de la race humaine sur la terre pour toujours, et réfute la théorie traditionnelle concernant la fin du monde que tu viens de mentionner.
Alors c'est donc vrai que les morts restaurés à la vie ou revenus de l'enfer de la Bible vivront comme êtres humains ici sur cette terre?
Oui, Thomas, cela est vrai. Bien plus, ceci est en harmonie avec le plan de Dieu qui, comme nous l'avons vu, est révélé à partir de la Genèse. Nous en aurons l'assurance plus entièrement en continuant notre étude de la Bible. Et maintenant, Thomas, voudrais-tu parler à nos auditeurs de l'article « L'assurance divine pour une survivance » ?
Avec plaisir, Pierre. Ce mot « survivance » a une grande importance dans le monde aujourd'hui. La Bible seule, de tous les livres publiés, nous donne l'assurance que la race humaine survivra, qu'il ne sera pas permis à l'homme de se détruire lui-même, ainsi que le craignent les savants. Cette assurance de survivre nous est donnée à travers toute la Bible, et particulièrement dans les livres de l'Ancien Testament, que nous avons vus au cours des discussions des semaines passées. Nous vous invitons à nous écrire pour demander un exemplaire gratuit de l'article « L'assurance divine pour une survivance ». Vous y trouverez les réponses aux questions suivantes. Pourquoi Job priait-il pour aller en enfer? Quel est l'enfer de la Bible? Qu'est-ce que l'âme humaine? Qu'arrive-t-il à l'homme à sa mort? La puissance divine établira-t-elle un contrôle sur les affaires des hommes? Comment savons-nous que les morts seront restaurés à la vie et qu'une occasion leur sera donnée de vivre éternellement? Qu'est-ce que la fin du monde? Et comment savons-nous que la terre ne sera jamais détruite? Ce sont seulement quelques-unes des questions dont vous trouverez la réponse dans l'article « L'assurance divine pour une survivance » qui paraît dans Aurore, publication mensuelle.
Demandez le petit livre « Survivance ». Demandez simplement « Survivance ». Ce petit livre vous sera envoyé gratuitement et franco de port.
Cette émission vous est offerte par l'Association des étudiants de la Bible Aurore qui publie la revue Aurore, en coopération avec les groupes locaux d'études de la Bible et leurs amis de partout. Nous serons avec vous la semaine prochaine à la même heure. Dites-le à vos amis, voulez-vous, et que Dieu vous bénisse tous.